France Inter.
La différence.
25 minutes et 30 secondes sur France Inter. L'heure de retrouver Zoé Varier, nous autres.
Je pense qu'en fait, c'est une fenêtre sur la richesse de l'être humain. Quand on voit le cerveau se construire dans le développement normal, se déconstruire à la suite d'une lésion et se reconstruire à la suite de la rééducation, ça c'est vrai que je pense que ça change notre façon d'appréhender le monde, et en particulier l'être humain.
Qu'est-ce que vous pensez à votre propre cerveau ? Est-ce que des fois vous réfléchissez au propre fonctionnement de votre cerveau ?
Non, je ne crois pas. Moi, si vous voulez, un des points qui m'intéresse le plus dans la conscience, c'est aussi cet aspect de construction subjective, mais c'est aussi le fait qu'on se raconte beaucoup d'histoires sur nous-mêmes.
Racontez-moi comment est votre vision maintenant, quand vous, par exemple, là, quand vous me regardez dans les yeux.
Ah ben, je vous vois.
Vous me voyez, moi.
Je vous vois.
Est-ce que déjà vous voyez mes deux yeux en même temps ?
Je vois vos deux yeux en même temps.
Et alors, sans bouger les yeux, pendant que vous me fixez, dites-moi tout ce que vous voyez dans la pièce.
Ah oui, dans ma chambre.
Non, sans bouger les yeux.
Votre collègue qui est dans le fond, là, en rouge, là, je la vois.
Non, vous bougez les yeux.
De l'autre côté, je vois ça.
D'accord, sans bouger les yeux.
Ouais.
Je vois vos yeux bouger. Alors, attendez, je vais me mettre face à vous.
C'est pas commode, ça.
Non, c'est pas commode.
C'est le dernier volet de notre série d'émissions sur le cerveau. Ce soir, deux chercheurs, deux regards, deux pensées qui se complètent. Lionel Nakache, neurologue à la Pitié-Salpêtrière, spécialiste de la conscience, et Sylvie Chocron, neuropsychologue à la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild, spécialiste de la vision aveugle. Qu'ont-ils en commun ? Leur travail sur les perceptions conscientes et les perceptions inconscientes du cerveau. Ce soir, cette émission est dédiée à notre inconscient. Pas l'inconscient freudien, mais l'inconscient neurologique. Un inconscient que l'on découvre encore plus intelligent qu'on ne l'avait jamais imaginé. Et pour commencer, est-ce que vous saviez que l'on peut voir sans savoir que l'on voit ? Voir sans le savoir. C'est ce qu'on appelle la vision aveugle, la vision inconsciente. C'est à la fin des années 90 que l'on a découvert que les personnes atteintes de cécité corticale pouvaient détecter inconsciemment dans la partie aveugle de leur champ visuel des formes, des couleurs et des mouvements. Sylvie Chocron est neuropsychologue et responsable de la consultation Vision et Cognition à la Fondation Rothschild. Chaque semaine, elle reçoit des personnes partiellement aveugles à la suite d'accidents cérébraux. Son pari ? Leur faire retrouver la vision. Pour cela, Sylvie Chocron stimule leur vision inconsciente, leur vision aveugle, en les forçant à effectuer des jugements sur les objets qu'elle leur présente et qu'ils ne voient pas consciemment. Elle leur demande de mettre des mots sur ce qu'ils ne voient pas. Souvent, ils disent « je ne vois rien ». Alors, elle insiste « est-ce un rien bleu, un rien rouge ?» Et le plus souvent, ses patients répondent sans se tromper. Et à force d'entraînement, de stimulation de la vision aveugle, de surstimulation, à force de nommer ces objets qu'ils ne voient pas, ces patients récupèrent de la vision consciente. Vertigineux encore une fois, notre cerveau est capable de cela, de créer de nouveaux circuits neuronaux qui permettront à ces personnes atteintes de cécité cérébrale de voir à nouveau et consciemment.
Mettez-vous face à moi. Oui, parce que ça va être plus facile pour moi de contrôler vos yeux. Alors, regardez-moi.
Oui.
Dans les yeux.
Oh. C'est pas commode. Oui.
C'est pas commode. Ouais. Est-ce que je tiens quelque chose dans ma main?
Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez aller l'attraper? Très bien, parfait. Donc là, vous le voyez? Avant d'aller l'attraper, est-ce que vous le voyez bien? Non. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, j'ai vu votre bras. Donc j'ai déduit qu'il y avait quelque chose au bout.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Mais est-ce que vous l'avez vraiment vu, cet objet que vous allez attraper?
Non.
Mais par contre, vous êtes sûr de vous. Vous y allez droit dessus.
Oui. Ça, c'est ma nature. Hein.
Ouais, non. Alors, est-ce que c'est difficile de concilier le fait que vous attrapez quelque chose que vous ne voyez pas? Ou est-ce que non, c'est vous êtes sûr de vous, même si vous ne voyez pas l'objet, vous allez l'attraper? Expliquez-nous.
Je ne sais pas comment. Je sais que la vision aveugle existe.
Bon,
je sais ça.
Maintenant, vous le savez.
Je le savais avant.
Ah oui, vous le saviez avant.
Je le savais avant. Donc,
en fait, ce n'est pas quelque chose qui vous pose problème. D'aller attraper quelque chose que vous ne voyez pas, ça ne vous pose pas de problème.
Non, pas trop.
C'est impressionnant pour moi.
Ah oui?
Bah oui, de voir quelqu'un qui attrape quelque chose qu'il ne voit pas.
C'est toute une vie derrière ça. C'est pas facile de l'expliquer, mais c'est comme ça.
C'est toute une vie inconsciente.
Ouais. On redécouvre des choses, d'ailleurs, qui avaient été plus ou moins découvertes il y a quelques années, et qu'on avait nié.
Bien sûr.
Hein, qu'on avait nié, donc...
Vous parlez de quoi?
La vision aveugle.
Ouais.
Ouais.
Comment vous la définiriez, vous, la vision aveugle?
Oh, bah, simplement parce que j'ai lu un bouquin qui décrivait le système du temps où je pouvais lire. Voilà.
Aujourd'hui, vous ne pouvez plus lire.
Ah, je ne peux pas lire pour l'instant, non. Ou alors, il faut vraiment les gros titres du Figaro, ou en dehors de ça, je ne peux pas lire.
D'accord. Vous avez eu un accident cérébral?
J'ai eu un accident cérébral. Je remettais des prix à des industriels qui avaient... Et à la fin de la séance, au moment où on faisait une photo de famille, je me suis effondré avec mon infarctus. Et j'ai été ensuite emmené au SAMU... par le SAMU à je sais plus où, et là le chirurgien qui est intervenu sur mon cœur a loupé la pose d'un stène et a libéré des emboles qui sont allés dans mon cerveau. J'étais aveugle pendant 48 heures, 3 jours, je sais plus combien.
D'accord.
Et la vie est revenue progressivement après.
Grâce au travail que vous faites ici?
Non, là, c'est revenu tout seul. Au départ, c'est revenu tout seul. Alors, j'ai fait un gros travail, effectivement, avec Chokrun, mais c'est dégueuler, à faire au bout d'un certain temps.
Ah oui?
Ah,
pourquoi?
Parce que c'est la barbe. C'est la barbe.
D'accord.
Voilà.
Parce que c'est un travail qui est basé sur la répétition de cette forme de stimulation, parce que effectivement, quand on demande aux patients d'agir ou de quand on les force à percevoir des choses dans leur champ aveugle qu'ils ne perçoivent pas
consciemment,
on sait que cette stimulation de la vision non consciente ne va pouvoir se transformer en vision consciente et ne va pouvoir être utilisée que si on surstimule ce système-là, voilà, qui du coup n'est pas drôle, mais qui produit une forme d'adaptation au déficit et de récupération en quelque sorte de la capacité à traiter des stimulations dans ce champ qui était aveugle au préalable.
Et sans les voir.
Exactement. Je vous montre des choses.
Oui.
Dans un premier temps, je veux que vous me disiez ce que ça peut être.
Oui.
Et dans un deuxième temps seulement, vous allez l'attraper.
Oui.
D'accord ? Fermez les yeux. Fermez les yeux. Allez, on y va. Ouvrez. Qu'est-ce que je peux bien tenir ? D'abord, ouais, quelle couleur ?
Bleu.
Très bien, vous avez le droit d'aller l'attraper. Vous avez gagné le droit d'y aller.
Ouais.
Bon, donc là, clairement, vous l'avez bien vu.
Je l'ai vu, là. Ah, ben, je l'ai vu.
Ben oui. Regardez comment il est.
J'ai deviné.
Hein, c'est lui que vous avez vu.
J'ai vu le haut.
Très bien.
J'ai pas tout vu. Hein.
Fermez les yeux. Ouvrez les yeux et regardez-moi dans les yeux. Qu'est-ce que je peux bien tenir dans ma main?
Aucune idée.
Ben oui. Là, en plus,
noir,
le contraste.
En tout cas, c'est
exactement.
Noir.
C'est ce que j'allais vous dire. Cette fois-ci, il n'y a pas de couleur. C'est noir.
Ouais.
Quelle forme ça a? Je le bouge dans ma main.
Si je regarde vous aussi.
Mais oui, vous ne le voyez pas.
Non,
mais qu'est-ce
pas.
Que ça peut bien être? Dites-y une réponse au hasard.
Un chat.
Un chat. Allez-y, allez l'attraper.
Un chat noir. Une clé, par exemple.
Allez, fermez les yeux. C'était une clé. Alors, regardez. Je vous montre maintenant des petits bouts de laine. Vous savez que ça n'aura pas de forme. Mm-hmm. Par contre, je veux que vous me disiez quelle couleur c'est.
Oui.
Hein, parce qu'on peut aussi arriver à reconnaître des couleurs d'objets qu'on n'a pas vus consciemment. Comme tout à l'heure. Fermez les yeux. Quand vous ouvrez les yeux, vous me regardez dans les yeux. Refermez les yeux. Ouvrez les yeux. Je veux juste savoir quelle couleur c'est.
Oui.
Regardez-le. C'est parfait.
Ouais.
Est-ce que vous, quand je le tiens comme ça dans votre champ visuel, regardez-moi, dans cette partie du champ visuel, est-ce que vous le voyez vraiment de la même couleur que quand je vous le montre devant?
Il est plus foncé.
Ouais. Fermez les yeux. C'est très, très, très bien, en tout cas.
Votre champ aveugle, c'est ici. C'est
la partie qui est... Voilà. C'était toute la moitié droite du champ visuel. Et je pense que la partie qui reste la plus difficile maintenant, c'est le cadran qui est en bas à droite. Est-ce que je me trompe? C'est ça, la partie la plus difficile?
Là.
Oui, exactement, ouais. En bas à droite.
Je sais pas.
Ouais. Et là, vous ne voyez rien.
Si vous n'allez pas regarder.
Vous voyez en bas à droite si vous ne tournez,
rien,
vous ne voyez rien.
Rien.
Donc c'est inconsciemment que monsieur reconnaît les couleurs.
C'est inconsciemment. Je pense
qu'il voit sans voir.
Il est capable, si je le force, il est capable de nous donner la couleur d'un stimulus que pourtant il ne voit pas spontanément. Consciemment.
Voilà, c'est ça.
Donc il faut imaginer que dans le cerveau, il y a des régions qui sont chargées de récolter toutes les informations qui permettent vraiment d'avoir une conscience de ce qu'on voit, mais qu'on peut très bien être dans une situation où on n'a pas conscience de ce qu'on voit, mais pour autant, des régions dans le cerveau ont traité la forme, la couleur, l'orientation, le mouvement, etc. Et donc, si je les force à répondre, elles vont pouvoir donner une réponse, même si la région qui permet de dire « il y a quelque chose », elle ne s'est pas activée. Voilà. Et on imagine qu'en surstimulant toutes ces régions qui travaillent, mais qui ne sont pas prises en compte parce que la région qui fait la synthèse de tout ça et qui donne la conscience visuelle est lésée, hein, on imagine que si moi je force le système régulièrement, je vais finir par pousser une région à nouveau cérébrale dans les aires visuelles à prendre en compte toutes ces informations et à pouvoir produire la conscience visuelle. Dernier essai. Fermez les yeux.
Mm-hmm.
Ouvrez les yeux.
Je ne vois pas, celui-là.
Rien du tout.
Ouais.
Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Vous dites, je ne le vois pas, celui-là.
Ouais.
Mais a priori, les autres non plus. Mais il y a quand même une différence dans la perception. C'est-à-dire que celui-là, c'est quelque chose de différent par rapport à tout à l'heure. C'est encore moins net.
Ah, je ne vois pas.
Du tout. Oui, mais tout à l'heure, vous m'avez aussi dit que vous ne les voyez pas. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est fréquent. Donc, il y a des « je ne vois pas ».
Ouais.
Qui peuvent vous permettre d'aller jusqu'à dire la couleur ou la forme.
Ouais.
Et il y a des « je ne vois pas » qui ressemblent à rien du tout. C'est-à-dire, ouais. Il y a des « je ne vois pas » où vous savez qu'il y a quelque chose.
C'est sûr, c'est sûr.
Alors, racontez-moi.
Comment vous expliquez ça? C'est, votre main joue un rôle important.
Ouais.
Parce qu'il tient quelque chose.
Ouais. Et ça dépend donc de l'orientation aussi.
Voilà. Ça, c'est un point qui est important. Étant donné que votre main est claire, donc...
Il y a un contraste entre l'objet et le
voilà,
ça,
c'est
certain.
C'est certain.
Ouais.
Maintenant, pour le reste, je ne sais pas vous dire.
Et là, c'était un « je ne vois rien » comme du vide.
Comme du vide, ouais. C'est ça. Ouais.
Alors, fermez les yeux. Je vous le remontre, parce qu'on ne va quand même pas s'arrêter sur ça. Ouvrez les yeux.
Bleu.
Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le même, je suis au même endroit.
L'autre,
c'était plus bas. Je suis un peu plus haut.
Ouais, voilà.
Voilà. Alors, si je descends, il va disparaître?
Oui, il a disparu. Là.
Ça y est, alors je reviens.
Là, je le vois.
Ouais. Et vous le voyez bleu.
Ouais.
Et là
bleu. Non,
et là
je vois rien.
Et vous pourriez même plus dire qu'il est bleu, là. ou c'est un rien bleu?
Non, je vois rien.
Mais vous l'avez attrapé droit dessus, hein? C'est un rien qui n'a pas de couleur, mais que vous êtes allé attraper parfaitement bien.
Vous avez vu?
Oui, oui. Il l'attrape.
Mais oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on commence toujours par l'appréhension.
Parce que ça, ça marche à tous les coups.
À tous les coups.
C'est-à-dire, dans le champ aveugle,
il n'y a rien, mais ce rien peut être attrapé.
Je crois qu'il n'y a pas de mots, c'est plus que passionnant.
Vous êtes face à une humanité troublante aussi, parfois. C'est troublant, ces troubles qu'on voit ici, dans votre bureau.
Je pense qu'en fait, c'est une fenêtre sur la richesse de l'être humain. Quand on voit le cerveau se construire dans le développement normal, se déconstruire à la suite d'une lésion et se reconstruire à la suite de la rééducation... Ça, c'est vrai que je pense que ça change notre façon d'appréhender le monde, et en particulier l'être humain.
En quoi? C'est-à-dire que comment vous appréhendez le monde, du coup? Vous pensez qu'on peut toujours récupérer? Vous pensez qu'on peut toujours se réparer? Vous êtes comme ça, dans une vision...
Alors, moi, j'ai du mal à séparer ce qui est ma nature profonde, qui est extrêmement optimiste, et comment cette nature déjà d'emblée optimiste a été influencée par le fait de voir des enfants atteints de lésions cérébrales apprendre à voir, apprendre à parler, apprendre à compter, apprendre à mémoriser, ou voir des patients, même âgés, réapprendre une fonction. Tout ça, ça repousse de plus en plus loin les limites du possible. Et donc, pour peu qu'on ait une nature un petit peu optimiste au départ, c'est vrai que... le fait de voir le cerveau se reconstruire à la suite des ravages faits par une lésion, ça nous permet de croire vraiment, de manière générale, dans le fonctionnement humain, au-delà du fonctionnement cérébral.
Vous vous occupez, vous, particulièrement des troubles de la vision, et donc de personnes qui ont des lésions à cet endroit-là du cerveau?
Alors, moi, je m'occupe spécifiquement de gens qui ont effectivement perdu la capacité à voir, non pas parce qu'ils ont un problème à l'œil, parce que ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que l'œil n'est là que pour capter l'information visuelle, mais une fois que l'œil a envoyé son information sous forme de signal électrique au cerveau, s'il n'y a personne... aucune région au niveau cérébral pour analyser cette information électrique qui arrive de l'œil, c'est comme si vous n'aviez pas vu. C'est comme si l'œil n'avait rien capté. C'est un petit peu la même chose que si vous prenez une photo et qu'il n'y a personne pour développer et regarder cette photo. Qu'est-ce que va devenir cette photo ? Elle va rester comme un stimulus non utilisé, non utilisable, si elle n'est pas développée, si elle n'est pas regardée.
Donc vous vous occupez de personnes qui ont un problème au cerveau, qui n'analysent pas les informations que lui ont été envoyées, le signal électrique de la rétine, c'est ça ?
Alors ici, on prend en charge des patients qui ont soit une lésion cérébrale de la première étape cérébrale du traitement visuel, c'est-à-dire vraiment pas de prise de conscience même du stimulus, donc c'est comme si rien n'était arrivé, comme si le patient était aveugle, soit le cerveau a pris conscience de cette information mais ne peut pas lui donner un sens. Donc le patient voit quelque chose devant ses yeux, mais il ne sait pas ce qu'il voit. Du siècle dernier, dans les années, on va dire, 40, 50, il y a eu beaucoup de patients qui avaient des lésions cérébrales dont on s'est rendu compte qu'ils avaient perdu sélectivement la vision à cause d'une lésion de la région du cerveau qui détecte. Et puis, il y a eu un certain nombre d'expériences chez l'animal d'abord, où on a montré que des animaux qui avaient perdu la vision pouvaient continuer à agir sur des stimuli alors qu'ils ne les percevaient pas. Et finalement, dans les années 70, on s'est rendu compte que chez l'être humain, on peut avoir perdu la capacité à détecter un stimulus consciemment, mais avoir conservé la capacité à agir sur ce stimulus, c'est-à-dire l'attraper, voire même à le traiter, sans pour autant en avoir conscience.
Et ça, c'est ce à quoi nous avons assisté. C'est-à-dire que ce monsieur a toute une partie de son champ visuel aveugle, et il peut quand même, à l'intérieur de ce champ, saisir des objets qu'il ne voit pas consciemment.
Voilà.
Est-ce que ça veut dire qu'il voit inconsciemment ?
Alors, tout à fait. En fait, il faut imaginer une entreprise, par exemple, où les employés qui sont responsables de la prise de conscience ne peuvent plus travailler. Ils sont soit en grève, soit pour une raison ou une autre, ils n'ont pas les moyens de travailler. Alors que ceux qui font des tâches bien plus élaborées, comme la reconnaissance, l'appréhension, l'analyse de la couleur, du mouvement, sont encore en train de travailler. Donc on imagine une situation où le patient n'a pas de conscience visuelle dans une région du champ visuel, mais pourtant certaines régions dans son cerveau sont capables de dire ce qui se trouve dans cette partie du champ visuel qui pourtant n'est pas détectée consciemment.
C'est ça qu'on appelle la vision aveugle ?
C'est ça qu'on appelle la vision aveugle, et cet oxymore, en quelque sorte, a été en fait décrit pour bien exprimer que lorsqu'on perd la capacité à voir dans une partie du champ visuel, cette perte n'est pas en tout ou rien. Ce qu'on perd en réalité, c'est la capacité à le détecter consciemment.
Et vous, vous rééduquez ces patients, vous leur apprenez à détecter ces stimuli qu'ils ne voient pas, couleurs, objets, formes, pour qu'ils puissent, quoi, les voir ?
Alors, nous, on est parti de cette idée, de ce postulat qu'il existait une capacité à traiter les informations visuelles, même sans en avoir conscience, qu'il existait une vision aveugle. Et notre pari, c'était de se dire que ces patients ne pouvaient pas évoluer dans un monde où ils traitaient des informations qui n'existaient pas. Donc, c'est une situation de conflit insupportable. Comment est-ce que vous pouvez accepter d'attraper un objet qui n'existe pas ? Comment vous pouvez accepter de reconnaître une lettre qui, pour autant, n'est pas perçue consciemment ? Donc, on s'est dit que une des raisons qui pouvait pousser un autre réseau de neurones ou une autre aire cérébrale à se spécialiser, c'était justement la résolution d'un problème qu'on posait au patient. C'est-à-dire qu'on le mettait dans une situation où il voyait sans voir. Et on s'est dit qu'en surstimulant donc ses capacités d'analyse, on allait les mettre dans une situation de conflit qu'ils allaient être obligés de gérer, parce que c'est aussi une façon de penser à la rééducation qui est une façon de se dire, voilà, le cerveau évolue quand il est confronté à un problème. Finalement, l'apprentissage, c'est résoudre un problème, d'accord, quel qu'il soit. Donc du coup, on a forcé ces patients à faire des jugements conscients sur des stimuli qu'ils ne percevaient pas consciemment. Et on s'est rendu compte que si ensuite on les soumettait à des tests de perception consciente, on s'est rendu compte qu'ils devenaient capables de percevoir consciemment des stimuli dans la région qu'on avait travaillée, là où on les avait forcés à faire des jugements justement sur ces stimulations qu'ils ne percevaient pas. Donc en fait, effectivement, ce qui s'est passé, c'est très simple. Vous demandez à un patient s'il voit quelque chose dans son champ aveugle, il vous dit non. Vous lui demandez quelle couleur c'est, il vous dit « bon, je ne vois rien », vous insistez, il vous dit « c'est bleu ». Hein, il est capable de dire que quelque chose est bleu alors qu'il ne l'a pas vu consciemment. Et puis, au fur et à mesure où vous l'entraînez à faire ce type de choses, alors il va passer par un gradient de sensation. Donc au début, il dit « c'est le hasard ». Puis ensuite, il va dire « je sens qu'il y a quelque chose ». Puis après, il va dire « je devine, je suis quasiment sûre qu'il y a quelque chose ». Jusqu'au moment où le patient vous dit « je perçois qu'il y a quelque chose ». D'abord, je le perçois, puis je le vois.
Est-ce que ça veut dire que dans vos patients, vous aviez des gens qui ne voyaient plus et qui voient aujourd'hui?
Oui.
Comme vous et moi.
Alors, ce qui est difficile, c'est d'arriver à chiffrer si la vision récupérée, après donc entraînement, a exactement les mêmes paramètres que la vision intègre, que la vision normale. Donc, c'est ce qu'on essaie d'étudier maintenant.
Et ça marche aussi pour quelqu'un qui a complètement perdu la vue?
Ça marche pour toutes les lésions qui sont d'origine cérébrale.
C'est-à-dire quand les yeux fonctionnent.
Quand les yeux fonctionnent. Il faut que les yeux fonctionnent, qu'ils envoient un signal et que la région détruite soit la région qui détecte consciemment, soit la région qui comprend. Plus c'est cérébral, plus on s'est rééduqué.
Vous vous rendez compte de la phrase que vous venez de dire? C'est une phrase qu'on n'aurait jamais pu entendre il y a quelques années. Plus c'est cérébral, plus on sait comment on peut faire.
Bien sûr. Et c'est un peu la même différence que pour les troubles moteurs. Vous savez que pour l'instant, si vous perdez la motricité, si vous ne pouvez plus marcher ou bouger vos bras à cause d'une lésion de la moelle épinière, ce sera beaucoup plus difficile de récupérer votre mobilité que si vous devenez hémiplégique à la suite d'une lésion cérébrale, où là, bien que ce soit aussi extraordinaire que récupérer la vision, on sait maintenant depuis des décennies que les kinésithérapeutes spécialisés dans ce genre de troubles vont permettre à des patients hémiplégiques de récupérer la motricité. C'est exactement la même chose pour la vision. On va pouvoir reconstruire la vision si la lésion est cérébrale. Pour l'instant, c'est beaucoup plus difficile de redonner la possibilité de voir si la lésion est au niveau de l'œil.
Là, on est dans votre bureau et on est devant votre écran d'ordinateur. Et vous m'avez sorti un graphique, avec une photo d'un patient.
Voilà, dont le visage est masqué, bien sûr, mais une photo d'un patient pour vous montrer, vous expliquer, en fait, une des parties de nos activités. C'est que moi, je travaille plutôt sur la question de la conscience, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'être conscient de nous-mêmes, conscient de l'environnement, conscient de nos pensées, et comment est-ce qu'on peut reconnaître la conscience? Comment savoir si quelqu'un est conscient?
Lionel Nakache est neurologue à l'hôpital de la Salpêtrière et chercheur en neurosciences cognitives au Centre de recherche de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Lionel Nakache est un spécialiste de la conscience. Il travaille depuis de nombreuses années à distinguer ce qui est conscient de ce qui est inconscient dans nos pensées et nos comportements. Grâce à ses travaux, il a mis en évidence l'existence d'une perception et d'une motricité hors conscience. Il a démontré que notre inconscient était bien plus intelligent qu'on ne le pensait et qu'il était capable d'opérations complexes. Avec son équipe et grâce à la révolution de l'imagerie cérébrale, Lionel Nakache a élaboré un test auditif d'évaluation de la conscience. Ce test a permis d'avoir la première représentation visuelle de la conscience. Explication.
On va faire écouter des sons aux patients.
Alors qu'il y a plein d'électrodes, c'est des électrodes, c'est
voilà,
qu'est-ce que
exactement.
C'est
alors,
parce sur la photo, on voit plein de petits points blancs avec le centre bleu.
Avec plein de petits fils, en fait, ouais. C'est ce qu'on appelle un filet d'électrodes qu'on pose sur le visage et la tête, comme un petit casque qu'on pose. Et chaque petite sphère que vous voyez, chaque petit contact, c'est une électrode. Il y en a 256, donc ça permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau, ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme, en fait. Donc on va lui faire écouter des sons, et on va lui demander de faire des choses avec. On va lui dire, en gros, qu'il y a des séries de sons qui seront rares et d'autres qui sont fréquentes.
Donc vous lui parlez.
On commence par lui parler, ouais. On va lui dire, voilà, on va vous faire écouter des séries de sons. On vous demande de faire très attention et parfois ces séries de sons seront rares. Et quand elles seront rares, eh bien vous devrez les compter dans votre tête. Et on a tout un ensemble de mesures qui nous permettent de voir si son cerveau a eu une signature électrique qui correspond à la prise de conscience de la nouveauté, de quelque chose qui est rare.
Et comment ça se voit ?
Alors ça se voit comme ça, comme sur cette...
Il y a quelque chose qui s'allume.
C'est la suite de l'image. Alors pour nous, c'est des valeurs numériques, c'est des chiffres en fait. Hein. Tout ça, ce sont des données chiffrées, mais on peut les représenter. Et en fait, vous avez toute cette boule rouge derrière qui veut dire qu'il y a une très grosse positivité. Eh bien, c'est un signe de prise de conscience de l'information. Donc on sait à ce moment-là, si vous voulez, que ce malade...
Est conscient. Et quels sons vous faites entendre ? C'est quoi ces sons ?
Ah, ce sont des sons. Non, ce sont des sons très simples. C'est vraiment, ça va nous faire un son de type bip 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 bip. Voilà, je vais vous faire écouter. Ça, c'est une série de sons. Quoi. Vous voyez ? Et l'autre série de sons, c'est ça. Et puis deux séries croisées qui font. Voilà, c'est pareil, stupide comme ça. Hein.
C'est vrai que ce test n'a rien de spectaculaire a priori, mais il permet aujourd'hui de détecter si une personne est dans un état végétatif, inconscient, ou s'il est conscient, mais paralysé. Mais comment définir le conscient et comment définir l'inconscient neurologique ? Voilà la réponse que donne Lionel Nakache. Ce qui est conscient, c'est ce que l'on peut rapporter. Je suis en train de faire ceci ou cela, je suis en train de penser à ça. Et ce qui est inconscient, c'est ce que l'on ne peut pas rapporter. Et la marque de l'inconscience, c'est l'évanescence. Pour qu'une représentation devienne consciente, il faut qu'elle ait une durée minimale. Les représentations inconscientes, elles, sont trop courtes pour qu'on en garde une trace active dans le cerveau. Et c'est pour cela que Lionel Nakache les qualifie d'évanescentes.
Pour étudier la conscience, en fait, ce avec quoi j'avais commencé à travailler, avec Stanislas Dehaene, dans le laboratoire de Stanislas, le plus simple était d'essayer de comparer deux processus mentaux qui sont semblables en tout point, sauf que dans un cas, le sujet peut rapporter ce qui se passe, est conscient, et dans l'autre cas, il ne peut pas.
Oui, voilà. Alors là, il faut que vous soyez précis. Il faut que vous me racontiez les expériences.
Oui, alors,
parce que pour que ça soit plus facilement identifiable.
Voilà, imaginable. Donc, c'est très simple. Hein, une expérience sur laquelle j'avais commencé, c'est une expérience dans laquelle vous voyez à chaque essai de l'expérience, vous voyez un nombre entre 1 et 9 qui n'est jamais 5. Et vous devez juste dire s'il est plus grand ou plus petit que 5. Vous voyez, ça paraît tout bête. Hein. 3, plus petit que 5. Donc, en fait, tout du long de l'expérience, le sujet voit des chiffres consciemment et répond consciemment à ces chiffres. Mais ce que le sujet ne savait pas, c'est que avant chaque nombre qu'il voyait consciemment, il y avait un premier nombre qui était présenté de manière subliminale. Et donc là, un des résultats de base, c'est que quand le premier nombre que vous ne voyez pas consciemment, il est situé du même côté que 5 que celui que vous allez voir juste après, donc par exemple les deux seront plus petits ou plus grands que 5, donc on appelle ça des nombres qui sont congruents, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble, ils sont congruents pour la réponse, tous les deux votent pour la même réponse, si vous voulez. Eh bien, vous répondez plus vite à des paires de nombres telles que cela, qu'à des paires qu'on appelle incongruentes, c'est-à-dire quand le nombre subliminal votait pour la main opposée à celle que vous allez devoir utiliser pour répondre au nombre que vous avez vu consciemment.
Ce que vous avez prouvé avec ce test, donc, hein, des nombres, c'est que la perception inconsciente influait sur la perception consciente.
Absolument.
C'est ça.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, on peut commencer même... du coup, on a pu démontrer que non seulement c'est influencé, mais que c'est influencé de manière intelligente. Ici, le nombre, mais aussi des mots. C'est-à-dire qu'en fait, on a pu montrer qu'inconsciemment, on peut accéder à la sémantique. On peut décoder inconsciemment le sens des choses. Dans le champ disons cette fois-ci plus du matériel verbal, de mots, on a pu montrer, cette fois-ci dans une situation, des patients qui sont dans une situation médicale assez particulière, ce sont des patients qui souffrent d'une épilepsie, mais d'une épilepsie sévère. Heureusement, c'est une minorité des patients épileptiques, mais il y en a quand même beaucoup. Chez certains de ces malades, une des premières expériences que nous avions réalisées consistait à montrer en fait des mots soit que vous voyez consciemment, soit des mots subliminaux.
Pareil, masqués.
Voilà. Le deuxième point important, c'est que le mot, soit sur le plan émotionnel, il est neutre. Alors, on vérifiait, évidemment, pour chaque chaise...
Chapeau...
Voilà, alors on vérifie que pour un sujet donné, c'est pas associé
pas
à un souvenir traumatique...
Phobie de la chèvre.
Voilà, exactement. Mais ça, on s'en assurait, et puis on utilisait des centaines de mots, quoi, des dizaines de mots. Et en fait, un des paramètres, c'est que certains des mots donc, étaient neutres ou positifs, et l'autre moitié était émotionnel. Émotionnel négatif.
C'est-à-dire des mots, de la peur,
des mots qui véhiculent la peur, la, mort, la menace, la mort. Voilà, donc c'est des mots violents, sang, viol,
maladie,
sida,
ouais,
mort. Ouais. Voilà, des mots extrêmement connotés négativement. Et en fait, pourquoi on a utilisé des mots émotionnels? Parce qu'on s'était intéressé à une structure cérébrale qui est très souvent enregistrée chez ces malades qui ont des électrodes intracérébrales, qu'on appelle l'amygdale. Alors vous savez, l'amygdale, mais l'amygdale cérébrale, pas l'amygdale ORL du fond de la gorge. Hein. Et ce qu'on a pu enregistrer, c'est qu'en fait, donc, comme l'amygdale est une structure qui, par sa connexion aussi cérébrale, est une région qui répond énormément à des situations de menace ou de risque, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé cette expérience pour ces patients. Et en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que lorsqu'on présente des mots de manière subliminale, on arrive à moduler l'activité de l'amygdale selon la valence émotionnelle. Donc quand les mots étaient négatifs, on avait une réponse très différente de l'amygdale que lorsque les mots étaient neutres ou positifs.
Quand les mots étaient négatifs et masqués, on est
et
bien
masqué,
d'accord.
Absolument.
C'est-à-dire qu'il y avait une reconnaissance inconsciente du danger.
Voilà. Et pourquoi c'était intéressant? Parce que si votre cerveau représente la menace d'un mot, qui est en fait un stimulus symbolique, c'est qu'il y a eu un décodage du symbole et un accès au sens. Donc ça permettait de généraliser cette idée de l'accès au sens. Et peut-être pour un point qui peut aussi nous intéresser, c'est que quand on voit ce même mot de manière consciente, on commence par avoir la même réponse que la réponse subliminale, mais qui est suivie d'une deuxième réponse qui, elle, est beaucoup plus tardive et qui est maintenue dans le temps et qui correspond un peu à cet aspect non d'évanescence, mais de maintien.
Donc ce que vous êtes en train de dire, ces deux choses que vous avez découvertes et que vous mettez à jour, que vous nous révélez, c'est qu'on a une perception inconsciente et que la prise de conscience est tardive, c'est-à-dire qu'arrive après cette
Absolument.
Perception inconsciente.
Absolument. Disons que la conscience se joue à peu près entre 2 et 3 dixièmes de seconde après que l'information ait pénétré dans votre système nerveux.
Alors ça, c'est une révolution de penser ça.
Alors écoutez...
Qu'on va d'abord comprendre
oui,
par des processus inconscients, saisir...
Vous avez raison, mais alors c'est à la fois une révolution... Ce qui est peut-être révolutionnaire, c'est de pouvoir vraiment le démontrer et commencer à pouvoir disposer du film cérébral de ces phénomènes-là. Mais du point de vue théorique, l'idée que ça se passait comme ça, et donc même longtemps avant Freud, l'idée même, le concept qu'il puisse y avoir une vie mentale inconsciente, on le trouve chez de nombreux penseurs, nombreux philosophes, mais la démonstration de ces phénomènes et vraiment leur caractérisation, c'est vrai, le développement des neurosciences au deuxième partie du XXe siècle, même dernier tiers du XXe siècle, qui a permis vraiment et aujourd'hui, de le mettre en évidence et de commencer. On n'a pas fini cette histoire.
Non,
mais
c'est
de commencer,
début, hein.
Voilà, c'est le début, on veut dire. Là, c'est une période encore de découverte. Et en fait, vraiment, on a cette notion qui vient maintenant dans beaucoup de travaux, c'est qu'il n'y a pas une région de la conscience. Que la conscience semble correspondre aussi à beaucoup de... une sorte de conversation cohérente entre les différentes régions du cerveau. C'est-à-dire que chacune de ces régions en elle-même n'est pas le siège de la conscience.
Bien sûr.
Mais que par contre, ce qui semble être le cas, c'est que la conscience se traduit dans le cerveau plutôt par un mode de fonctionnement des régions. Et une fois de plus, il n'y a pas une région. Alors, toutes les régions n'ont pas le même poids. Il y a des régions qui ont plus de poids dans l'existence de ce réseau cérébral, mais aucune d'entre elles ne fonctionne que consciemment. C'est-à-dire que chacune d'entre elles peut être le siège d'opérations inconscientes.
D'accord. Donc c'est très proche.
Donc c'est très proche et donc du coup il y a des on parlait tout
à
l'heure
des interférences.
Oui, et
des
puis des influences. On parlait tout à l'heure des influences du non conscient sur le conscient. Mais à l'inverse aussi, comme on voit cette proximité anatomique et fonctionnelle, il y a une très grande influence de la conscience sur les phénomènes non conscients. C'est-à-dire que votre cerveau ne va pas faire exactement la même chose de manière non consciente selon la posture que consciemment vous adoptez à un moment donné.
Lorsque vous craignez soudain de faire fausse route, sifflez vite, vite, sifflez vite, vite. Quand le mal l'emporte et que le cœur est en déroute, sifflez vite, vite, sifflez vite, vite. Mais dans le cas où ça ne suffirait pas, criez donc à tue-tête, quoi ?
Jiminy Cricket ?
Oui ! Quand le diable est là pour vous créer des embarras, sifflez vite, vite, sifflez vite, vite. Alors votre conscience paraîtra.
Thank you.
le diable est là pour vous créer des embarras. Sifflez vite, vite.
Youhou!
Sifflez vite, vite.
Oh, oh!
Alors votre conscience paraîtra.
Alors votre conscience paraîtra.
Et puis, à force de travailler sur le conscient et sur l'inconscient, Lionel Nakache, neurologue, s'est mis dans les pas de Freud. Et selon lui, Freud se serait trompé dans la définition de l'inconscient. En fait, en pensant découvrir l'inconscient, Freud aurait découvert le conscient et la place centrale de la fiction dans notre économie psychique. Lorsque nous sommes conscients, nous construisons du sens. Lorsque nous sommes conscients, nous passons notre temps à scénariser le réel, à s'inventer des fictions contraintes par le réel. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas croire tout ce que nous dit notre cerveau.
Oui, oui, on peut dire ça, mais en même temps, il faut la phrase d'après qu'il faut dire, c'est que le point intéressant, c'est que je crois quand même que dans ce qu'on pourrait appeler la condition humaine, il y a le fait que... une des propriétés de cet univers mental conscient, c'est qu'on a besoin de produire du sens subjectif, qui va nous guider, qui va aussi être le support de croyances qu'on pourra réviser, critiquer, mais que cette notion, on peut pas la disqualifier, si vous voulez.
Et ça, c'est aussi étayé par des expériences, c'est-à-dire qu'il y a eu des expériences où on a montré que nous, humains, en tout cas, on se créait des fictions pour donner du sens à nos actions. Et là, pareil, les expériences sont absolument extraordinaires. Cet homme à qui on dit « marche » de façon subliminale, ou non, il a les deux hémisphères séparés.
Exactement, ouais, vous avez tout parfaitement. C'est exactement ça, c'est qu'il a les deux hémisphères séparés.
Et on lui dit « marche ».
Parce qu'en fait, ils ont été coupés chirurgicalement. La structure qui relie les deux hémisphères, ce qu'on appelle le corps calleux, a été découpée par le chirurgien, non pas pour une expérience, mais pour soulager ce patient. Alors donc du coup, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces patients... là, c'est un des tableaux neurologiques les plus fascinants qui m'est donné, te donné la possibilité de voir. Et de... C'est qu'en fait, ces patients... ont un cerveau, mais simplement, c'est comme s'ils avaient deux pensées dans un même corps, dans un même crâne. C'est-à-dire qu'ils ont deux pensées parallèles, si vous voulez, de certaine façon. C'est-à-dire que les deux hémisphères ne communiquent plus, mais continuent chacun à travailler. Et on peut d'ailleurs avoir beaucoup d'indices pour montrer que les deux hémisphères opèrent à des traitements conscients. Donc, comme s'il y avait deux consciences qui ne se parlent pas chez le même individu.
Alors là, c'est...
Dont une parle, d'ailleurs, dont une maîtrise le langage assez bien, l'autre beaucoup moins.
Ouais.
Donc là, dans l'expérience Princeps, vous envoyez, vous faites fixer droit devant lui le malade, vous lui envoyez le mot « marche » ou « lève-toi » ou « walk » et puis vous l'envoyez dans l'hémichamp visuel gauche. Donc c'est l'hémisphère droit qui va le voir, vous savez, tout est croisé. Et donc, dans le cas présent, l'hémisphère droit a lu la consigne, décide d'obéir, lance un programme moteur, donc le sujet se lève et commence à sortir de la pièce. Et à ce moment-là, Gazzaniga interrompt le malade, il lui dit mais pourquoi vous sortez ? Lui, évidemment, il sait pourquoi le malade sort. Dans ce scénario, l'hémisphère droit sait pourquoi il sort, puisqu'il a lu la consigne et qu'il a décidé de le faire, mais celui qui ne sait pas, c'est l'hémisphère gauche. Et là où ça devient fascinant, c'est que quand vous demandez au sujet « mais pourquoi vous sortez ?», il va vous répondre avec des mots, mais celui qui vous répond avec des mots, c'est pas le sujet, c'est que l'hémisphère gauche. Et l'hémisphère gauche n'a aucune idée de la raison pour laquelle il est sorti.
Mais au lieu de répondre « je ne sais pas »,
il invente une histoire. Par exemple, vous savez, je crève de soif, il faut que j'aille acheter une boisson et je reviens, ou ma femme m'attend en bas, etc. Donc en fait, ça c'est pas la seule, mais c'est une des démonstrations les plus fascinantes du fait que là on voit bien qu'on se raconte une histoire, parce que l'histoire est entre guillemets délirante par rapport à la réalité, c'est-à-dire qu'elle est totalement fausse par rapport à la réalité. Mais le point important, c'est que de bien comprendre que ce qu'on peut appeler cette fiction cérébrale, cette fiction mentale, consciente, on se rend compte que c'est une fiction parce qu'elle est fausse, mais dans la vie de tous les jours, nous ne fonctionnons pas différemment.
Mais là, c'est un monsieur qui a les deux hémisphères séparés. Nous, nos deux hémisphères, ils ne sont pas séparés.
Non, mais chez lui, en fait, en l'occurrence, ce qui était spectaculaire, ce n'est pas tellement que ses hémisphères étaient séparés, c'est qu'il invente une histoire à propos de quelque chose. Il remplit une sorte de vide de sens. À la limite, il aurait pu dire « je ne sais pas pourquoi je sors », et pour autant, il raconte une histoire. Donc là, on peut confronter avec beaucoup de sources différentes, mais je crois qu'il y a vraiment cet aspect-là, c'est que... lorsqu'on prend conscience de quelque chose, donc il y a cette sorte de conversation cérébrale à longue distance, mais immédiatement, il n'y a pas le fait seulement de pouvoir rapporter quelque chose, mais il y a le fait que vous construisez, ou en tout cas, c'est même coloré dès le début, par un sens. Une signification que vous allez soit accepter, soit modifier, soit réviser. Je ne dis pas qu'on ne peut pas pas les changer. Et donc, dans cette dimension de la conscience, il y a cette fonction un peu de narrativité et d'interprétation, en fait, d'interprétation-croyance, un peu.
Alors là, c'est vertigineux, ce que vous dites, c'est le vertige.
Oui, oui, c'est vrai.
Parce que ça voudrait dire que nos pensées, nos actes, nos gestes sont motivés par des fictions qu'on se raconterait à nous-mêmes, c'est ça ?
Je crois qu'il y a une partie qui relève exactement de ce phénomène-là. Je crois qu'il y a une partie, et là où ça devient une mise en abîme vertigineuse, c'est que, d'une certaine façon, ce à quoi nous croyons finit aussi par avoir une certaine réalité, pas seulement dans nos esprits, mais même dans nos actions, puisque ça peut guider des actions futures, et donc, en fait, une fiction peut façonner le réel aussi, et s'inscrire dans la réalité, je veux dire, aussi bien... Donc là, on peut aussi reposer des questions qui me semblent aujourd'hui très importantes avec cette idée-là. Par exemple, un fait banal, moi je trouve ça assez étonnant, mais c'est banal, hein, c'est très banal. C'est que, imaginez que je sois un prestidigitateur, ce que je ne suis pas, et puis qu'à la David Copperfield, là, je claque dans les doigts et je disparais devant vous.
ça m'épaterait.
Voilà, moi aussi, pour tout vous dire.
Faites-le, s'il
vous
plaît.
Mais alors, je ne sais pas le faire, mais imaginez que je sois capable de le faire. Ouais. Quel serait un des premiers termes qui vous viendrait à l'esprit pour décrire cette expérience ? Sans doute, vous direz, c'est absolument
incroyable.
Alors, quand vous. Ouais, c'est vous qui l'avez dit, hein, je ne l'ai pas dit.
Oui, j'allais le dire, incroyable.
Alors, si vous dites incroyable, maintenant on s'arrête et on revient un tout petit peu en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que quelque chose est incroyable ? C'est-à-dire qu'à l'instant d'avant, on croyait quelque chose. Pourquoi utiliser cet adjectif ? Donc, ça veut dire qu'en fait, quand nous percevons le monde, ce n'est pas juste qu'on le perçoit, mais par exemple, là, quand je vous parle, évidemment, non seulement je vous vois, mais j'ai la conviction extrêmement forte que vous êtes là. Si vous disparaissiez, ça serait pour moi incroyable. Voilà. Et vous aussi. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire simplement que être conscient, c'est une banalité, hein, mais qui peut être importante, c'est que être conscient, c'est aussi construire des interprétations et des croyances. J'interprète que vous êtes une personne, que vous êtes Zoé, et que vous êtes là et qu'on discute, et en même temps que je crois à tout cela. Ce n'est pas que je le raconte de manière un peu détachée. J'ai une conviction forte. Une fois de plus, si vous disparaissiez, ça me choquerait. Parce que je veux dire, c'est pas possible.
Mais la conviction, vous l'avez parce que je suis effectivement là.
Oui, mais on pourrait très bien imaginer une situation. Il y a des activités mentales dans lesquelles vous pouvez penser à des choses de manière, vous voyez, avec moins de conviction. Vous dites, voilà, je peux imaginer, et s'il se passait ceci ou cela. Mais je veux dire par là que ce que nous vivons, nous lui conférons une certaine croyance, un certain degré de réalité, en fait. Effectivement, nous interprétons le réel et puis nous colorons ça avec des croyances. Alors, je ne dis pas qu'on le fait volontairement, ça vient comme ça, ça s'offre comme ça à nous.
Et c'est ça, c'est là-dessus que vous allez travailler,
c'est-à-dire. Oui, c'est exactement.
Donc, ça, c'est là-dessus. Comment, dans notre cerveau, nous produisons du sens ?
Voilà, c'est ça qui
m'intéresse. Ou nous interprétons la réalité par des fictions. Mais comment nous produisons du sens sur tout ce que nous vivons ?
Voilà, exactement.
C'est ça, exactement.
Exactement. Et comment on le met à jour ? Comment on le modifie ? C'est ça. Voilà, tout un programme.
Et quel programme à suivre donc ? Tout reste à découvrir. Nous ne sommes qu'à l'aube de notre connaissance sur le cerveau. Merci à Sylvie Chocron, merci à Lionel Nakache. Vous trouverez les références de leurs publications et livres sur le site internet de l'émission. Merci aussi à Monsieur Mousson d'avoir accepté que nous enregistrions sa consultation avec Sylvie Chocron. C'est la fin de cette série d'émissions sur le cerveau. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, Michel Soulier aussi. Merci à tous ceux qui y ont participé. Charles Ambroise, Valérie, qui m'a conseillé tout au long de ce travail. Philippe Van Écoute, Sylvie Chocron et Lionel Nakache. Voilà, c'est fini pour ce soir. On se retrouve vendredi prochain. Et en attendant, passez un très bon week-end.